Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Conflit en Libye. Deux soldats turcs ont été tués en Libye où Ankara a déployé des militaires pour soutenir le gouvernement de Tripoli. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, faisant pour la première fois état de pertes militaires dans ce pays. La Turquie a dépêché sur le terrain des militaires turcs ces dernières semaines pour aider le GNA, le gouvernement libyen d'Union nationale de Faiz al-Sarraj, face à une offensive de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui est soutenu par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte. En Égypte même, décès ce mardi de l'ex-président Hosni Moubarak, contraint à la démission après le soulèvement populaire de 2011. L'ancien leader a dirigé son pays pendant 3 décennies et il est mort à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire Galaa au Caire. Selon son beau-frère, le général Mounir Tabet, la présidence égyptienne organisera les funérailles du disparu. Et élection au Togo maintenant. L'opposition continue de contester la victoire du président Fornia Singbe, élu pour un 4e mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle de samedi. Hier, l'opposant Agbeyome Kodjo a appelé le peuple togolais à réclamer la vérité des urnes. Les précisions de notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Ougbo.
Agbeyome Kodjo n'en démord pas malgré la publication de la Commission électorale nationale indépendante du vainqueur du scrutin du 22 février. Après s'être autoproclamé dimanche élu du Togo, hier encore il a déclaré être le gagnant de la présidentielle de samedi dernier.
En conséquence, les acteurs de la dynamique Monseigneur Kodjo rejettent catégoriquement les chiffres communiqués par la CENI et interpellent les missions d'observation électorale et la communauté internationale a fait qu'elle prenne des dispositions idoines.
L'ancien Premier ministre s'exprimant au nom du collectif des acteurs de la dynamique, Monseigneur Kodjo, a appelé le peuple togolais à réclamer la vérité des urnes.
Il lance un appel vibrant aux populations togolaises à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre le suffrage.
Mais pour l'heure, son appel à manifester n'a pas été suivi. Dans un communiqué, l'ANC de Jean-Pierre Fabre a dénoncé au même titre que le collectif de la dynamique Monseigneur Kodjo une fraude massive lors du scrutin de samedi. Irénée Herman Ougbo, Lomé, VOA Afrique.
Élection aux Comores, le second tour des législatives dans ce petit archipel de l'océan Indien, boudé par l'opposition, a confirmé la mainmise absolue du parti du président Azali Assoumani sur le nouveau Parlement. C'est ce qu'a annoncé lundi la CENI, la Commission électorale nationale. Après avoir obtenu 18 des 24 sièges de l'Assemblée fédérale dès le premier tour, le 20 janvier, la Convention pour le renouveau des Comores, CRC, en a raflé 4 de plus lors du second tour disputé dimanche dernier, selon les résultats officiels. Et puis, en République démocratique du Congo, les magistrats ont suspendu hier leur grève entamée le 10 février en vue d'exiger de meilleures conditions de travail. Les détails avec Eki Abadou.
Cette suspension de la grève est un acte de bonne foi pour permettre la poursuite des négociations, a déclaré Edmond Issofa, président du syndicat national des magistrats. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire, d'un côté réformer la justice pour lutter contre la corruption et de l'autre laisser les magistrats vivre dans la précarité, a-t-il ajouté, indiquant que le travail reprendrait dès aujourd'hui mardi dans les tribunaux. En juillet, le Conseil supérieur de la magistrature avait transmis au gouvernement des propositions de salaire et avantages à payer à chaque magistrat congolais. La justice congolaise est souvent accusée d'être lente et corrompue, alors que le président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption, une de ses priorités. En 2018, Joseph Kabila avait révoqué 250 magistrats accusés de corruption. La RDC occupe la 168e place sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption établi par Transparency International dans son dernier rapport publié à la fin janvier.
Au Burundi voisin, selon les autorités, au moins 13 bandits armés et un policier ont été tués dimanche dans la province de Bujumbura rural lors d'affrontements avec les forces de l'ordre appuyées par les jeunes du parti au pouvoir. Le point avec Eddy Sango.
Selon Jean-Pierre Nyongabo, administrateur de la commune de Mutambu, un groupe de bandits armés, un terme pour désigner les rebelles, est entré dans sa commune où la population et les forces de l'ordre les attendaient de pied ferme. Selon lui, les combats ont eu lieu pendant 2 heures sur la colline de Nyankere, à environ 30 km de Bujumbura, précisant que 13 bandits armés ont été tués et l'un d'eux a été arrêté. Il a aussi fait état d'opérations de ratissage pour retrouver les restes de la bande. Deux témoins ont confirmé les affrontements en expliquant que les Imburanerakure, la ligue de jeunes du parti au pouvoir, dont certains armées des Kalachnikov, étaient en première ligne aux côtés de l'armée et de la police. L'annonce en 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat avait plongé le pays dans un cycle de violence.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Tournée du président américain Donald Trump en Inde, le chef de l'exécutif américain et son épouse Melania ont été accueillis en grande pompe dans le pays où le locataire de la Maison Blanche a débuté hier une visite d'État de 2 jours. Le périple vise à nouer les relations commerciales entre Washington et New Delhi sur fond de conflit avec Pékin. Les États-Unis s'irritent toutefois du protectionnisme historique de l'Inde et jugent que les entreprises américaines n'ont pas un accès suffisant à son marché intérieur. Pour une analyse des liens américano-indiens, Jacques Aristide s'est entretenu avec Jean-Luc Racine. Il est directeur de recherche émérite du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris.
Au-delà de l'alchimie entre les deux leaders, une relation personnelle qui est d'ailleurs mise en avant, hein, cette première journée du 24 février à Ahmedabad puis à Agra, c'est une journée spectacle. Le président Trump est revenu sur sa proclamation initiale. On croit savoir qu'il n'y aura pas d'accord majeur sur le plan commercial. Donald Trump a manifesté son irritation de voir que les échanges commerciaux nourrissent une balance déficitaire pour les États-Unis. Bon, c'est une vingtaine de milliards, c'est très peu de choses par rapport au déficit américain vis-à-vis de la Chine. Mais des mesures de rétorsion ont été prises, des traitements préférentiels ont été arrêtés. On a là un ensemble d'irritants. Il y en a un autre, c'est la question des visas pour les immigrants indiens qui viennent travailler aux États-Unis.
Mais l'Inde représente-t-elle un allié stratégique pour les États-Unis en Asie ? Qui voit donc en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région et même ailleurs dans le monde, comme en Afrique, par exemple.
Oui, à ceci près qu'il ne s'agit pas d'alliance, mais de partenariat. Et la distinction est importante parce que si l'Inde et les États-Unis ont véritablement solidifié leurs relations bilatérales, en gros, ça a commencé avec Bill Clinton quand il a fait une visite de 5 jours en Inde en 2000, en effaçant un peu les tensions qui avaient marqué les premiers essais nucléaires indiens officiels en 1998. Et depuis Trump, puis Bush, les choses donc se sont rapprochés en parallèle avec la montée en puissance de la Chine. Alors évidemment pour l'Inde, il y a 2 questions qui se posent. L'une, c'est le contentieux frontalier avec la Chine, comme avec le Pakistan sur la question du Cachemire. Mais la grande nouveauté, c'est la percée de la marine chinoise en océan Indien. Il s'agit pour l'Inde d'avoir un appui américain, essentiellement dans l'océan Indien, mais aussi de s'affirmer un peu plus dans l'océan Pacifique. Alors évidemment, c'est relativement secondaire pour New Delhi. Les Indiens ne vont jamais dire qu'ils accepteraient de jouer un rôle de contrepoids à la Chine sur injonction américaine. Mais en même temps, Narendra Modi garde quand même pour l'essentiel ce qui était la ligne diplomatico-militaire indienne avant lui, c'est-à-dire on renforce le partenariat avec les États-Unis, mais pas jusqu'à sceller une alliance en bonne et due forme, comme ça a pu être fait avec le Japon ou avec les Philippines avant que le président philippin décide, semble-t-il, de mettre un terme à cette alliance militaire.
Jean-Luc Racine, du Centre français d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, il est également chercheur senior à Asia Center et il était en ligne de Paris. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.